question de mon bien. Oui, voilà. Henri Traforetti, j'ai 59 ans. Je suis marié, un enfant, et puis j'ai comme fonction à la mairie de Besançon d'être l'animateur de la cellule de sécurité routière.
Et par rapport à Week-end à Sochaux, vous avez quelle fonction ?
Nous c'est sur tout ce qui s'est passé à Besançon. À bientôt j'espère. Voilà, c'est ça. Ce qu'on a de particulier, c'est d'avoir vécu ces moments merveilleux à un moment donné. On se présente, puis après on poserait les questions, je pense. C'est mieux, non ?
Oui, tout à fait.
Il va bien.
Je m'appelle Corouche Christian, j'ai 50 ans. J'ai participé un week-end à Sochaux et puis je travaille toujours à l'usine de Sochaux. Voilà, c'est tout.
Vous dites des moments merveilleux, c'est des moments de force. C'était pourquoi vous avez travaillé à Sochaux ou bien c'était ces moments de lutte ouvrière des années 68-70. D'abord, le film date de quand ?
Week-end à Sochaux date de. Ça a commencé 70, 71, 72. Donc, ça, le premier jet, c'était un film trois quarts de la vie, donc fin 70, je dirais, début 70. Hein. Et puis, voilà, donc, moment merveilleux, moi je suis d'accord, je veux dire, mais dans le sens où ça. Quand on est jeune et puis qu'on a ce genre d'expérience, il est évident qu'après le sens de notre vie devient différent. Voilà, dans ce sens-là. Mais je te laisse la parole.
Oui, là, moi j'interviendrai plus spécifiquement sur Besançon. Donc moi j'ai participé au groupe Medvedkin dans les années 68, 69, puis 70. Même un peu avant peut-être, parce qu'il y a 30 ans, donc les souvenirs, c'est difficile à se rappeler des dates exactes. Oui, je disais tout à l'heure que c'était merveilleux, compte tenu que c'est une partie d'un instant de vie qui m'enrichit. Par rapport à ce qui va se passer, disons par la suite, c'est des moments que, premièrement, j'ai rencontré des gens que je n'aurais pas rencontrés en temps normal. Il y a eu Chris Marker, Mario Marais, mais également Simone Signoret, Yves Montand, qui d'autres encore, disons des grands cinéastes, Godard, oui, puisque on a même à Besançon, on a même déjeuné ensemble, je veux dire. Donc c'est des moments à 20 ans, c'est des moments inoubliables. Au-delà, c'est toute une panel, de cinéastes, de photographes, qui vont venir à Besançon nous apprendre le maniement des outils, de certains outils tels que la caméra et puis l'appareil photo. D'abord, on a commencé en faisant de la photographie, pas en filmant. Hein, on a commencé à travailler sur des thèmes avec la photographie. D'ailleurs, un de nos reportages photographiques est passé dans Photo en 1968, dans un photo magazine. C'est quand même assez. On avait sûrement bien travaillé ce coup-là. Et ensuite, petit à petit, on va arriver, sur la réalisation d'un film qui va s'appeler À bientôt, j'espère, Éclats de lutte. Voilà.
Donc, Medvedkin, vous ne saviez pas du tout qui c'était ?
Non, je l'ai appris par la suite, parce qu'au début, on n'a pas connu. Medvedkin ne me disait rien. Par contre, petit à petit, effectivement, on va faire connaissance avec ce grand personnage. Et puis encore tout dernièrement, je crois que c'est Arte. Et là, j'ai vraiment. Ça m'a interpellé. Parce que je ne savais pas effectivement qu'il avait été manipulé et autres. Mais bon, ça c'est l'histoire, on ne la refait pas.
Non,
je l'ai vu. Ouais. Non, mais je crois que c'est justement toutes ces contradictions qui font qu'à un moment donné aussi on comprend que l'intégrisme, à travers les mots, à travers les faits, peut amener à des choses bien différentes de ce qu'on pourrait escompter. Je pense que c'est tout un cheminement.
Tout à l'heure, vous avez dit dans la salle que la classe ouvrière, on n'en parlait plus beaucoup. Aujourd'hui, du moins, on ne l'affirmait plus. Et quand on voit Week-end à Sochaux, c'est un film qui est fait avec des travailleurs qui prennent la caméra. Et ça s'inscrit dans la mémoire ouvrière. Il n'y a pas beaucoup de films qui participent de ce courant-là en France à cette époque-là. Il y a eu un peu les Rendez-vous des quais de Carpita, mais qui était un film de fiction. Et puis il y a eu une expérience de théâtre au moment du groupe Octobre, avec les grèves de 36, mais qui était du théâtre. Comment vous voyez ça, vous, la classe ouvrière qui s'exprime là, et vous qui travaillez à Sochaux à l'époque?
Donc, moi, j'ai envie de revenir en disant qu'on n'a jamais laissé vraiment la parole à la classe ouvrière, point. Ça s'arrête là, on ne l'a jamais fait. Et à chaque fois qu'il y a eu prise de parole de quelques-uns de la classe ouvrière, c'est un accouchement forceps. C'est quelque chose de dur. Il faut mettre plusieurs conditions en même temps. Il faut réunir des professionnels du cinéma qui savent se servir de matériel et en même temps trouver quelqu'un d'assez sociable, en l'occurrence, et un couple assez sociable, je dirais, le couple Seb, qui arrive à mettre ces jeunes travailleurs qu'on était en confiance. Mais autrement, le discours de la classe ouvrière, c'est vrai qu'on l'entend, je veux dire, on l'entend syndicalement, on l'entend par rapport aux partis politiques qui, soi-disant, sont les dignes représentants de cette classe. Et pourtant, on le sait tous dans les usines, je veux dire, on le vit, on sait bien que c'est pas forcément ce langage qui est tenu par ces gens qui est tenu dans les ateliers, quoi. Je veux dire, il y a un décalage terrible entre les négociations au sommet et ce qui est en cause dans les ateliers, dans les conditions de travail, dans les mauvaises vies, dans la mauvaise bouffe, dans les mauvaises études des gosses, dans les mauvais choix des parents par rapport aux études des gosses. Ça forme un tout, la classe ouvrière. Et c'est vrai que pour ne pas avoir à répondre à toutes ces critiques, et ben pendant des années on a évité d'en parler. Mais personne n'en parle d'ailleurs. Vous allez voir, moi j'étais parent d'élève, vous allez voir dans une école, votre gosse va pas trop bien, il faut plus bien changer d'orientation. Mais quand on commence à poser le problème, mais quel genre d'orientation il faudrait, ah bon, c'est pas trop, c'est à vous de choisir. Quand vous venez tirer 8 heures de chaîne, vous n'avez pas forcément envie de choisir une orientation. À partir de là, le débat il est mort, hein, je veux dire. Hein. On continue à former des élites qui pensent pour eux, hein, et puis des ouvriers qui serrent les boulons, hein, puis ça se reconstitue. Quand je cite l'anecdote tout à l'heure de combien il y a d'ouvriers à l'heure actuelle en France et que les gosses, les étudiants et étudiantes en sociologie ne savent pas quoi répondre, c'est quand même une volonté politique évidente de ne pas vouloir parler du premier groupe social français. On le met à l'écart, on l'ignore, on le méprise, ça n'a pas changé. De Gaulle disait la chienlit est dans la rue, je veux dire, moi j'ai l'impression de toujours vivre ce genre de situation. Pas d'humiliation, parce que justement, ma vie avec la connaissance de ces gens qui m'ont permis d'accéder ailleurs, font que je ne serai jamais humilié, mais en même temps, je suis mal pour tous mes copains de boulot, parce que je n'ai pas envie de les voir se faire mépriser de cette façon-là. En fait, on a besoin d'ouvriers quand on est en panne de chiottes, quand on est en panne de bagnole, ou quand la salle de bain, il y a le tuyau qui fuit. Là, on se dit, tiens, peut-être bien qu'il existe encore un ouvrier. Parce que depuis longtemps, tout le monde s'en fout des ouvriers. Je veux dire, qui va voir dans une usine, à part les retraités pour essayer de piquer de boulons et de pain selon des chaînes, mais qui va les voir? Je veux dire, on fait du tourisme industriel maintenant. On visite les usines comme on visite un zoo, sauf qu'il n'y a pas de ticket d'entrée, quoi. On essaye au zoo, on paye 50 balles, dans qu'on visite une usine, on essaye à tout prix de lui fourguer une bagnole, quoi. Mais c'est ça le fond du problème. Et souvent, c'est des vieux prolos qui visitent leur usine. Hein. On se déplace dans la région parisienne pour voir Sochaux, quoi. Moi bientôt, je vais aller en retraite, je vais aller visiter Renault, quoi. Comme si un cerveau humain était bon qu'à ça, quoi. Comme si on l'avait coltiné. Alors tout ça, avec l'écrasement des médias, on nous a fait miroiter la bourse, la participation, l'intéressement, tout. On nous a tout mis. Hein, même les start-up, tout. Mais les prolos, ben, on sait pas. Vous croyez vraiment qu'il faut augmenter leur pouvoir d'achat? Vous croyez vraiment qu'ils seraient plus heureux? Je sais pas. Mais vous savez, le SMIC, déjà, ça coûte cher. Est-ce qu'il ne faut pas le supprimer complètement, cette ordure de SMIC qui nous fait chier depuis 68? Moi, je suis pour le supprimer quand même. Alors après, on nous parle que des grands économistes, Delors, Barre, tous, ils sont tous passés pour nous dire qu'on ne pouvait jamais augmenter les salaires. Mais vous avez déjà essayé de vivre, de faire vivre une famille avec 6700 balles quand vous levez à 4h le matin? Bon, enfin, c'est pas possible. Est-ce que c'est possible de vivre dans une société où on embauche nos gosses plus diplômés que les parents, plus diplômés que nous, qui ont été à l'école, eux, beaucoup plus que nous encore, et qu'on les embauche, ou les sous-traitants de l'automobile à Etup ou ailleurs, puisque dans le système automobile maintenant, il y a les équipementiers qui sont à la proximité, hein, on les embauche à 6 000 balles, nous on gagne 7 000, et nos gosses plus diplômés, on les embauche à 6 000 dans des horaires de travail pires que les nôtres. Enfin, est-ce que c'est possible de continuer à dire que cette société va bien? Est-ce que c'est possible de dire qu'il n'y a pas une volonté délibérée, politique, technocratique, d'ignorer totalement ce qu'est la classe ouvrière, vraiment? Est-ce qu'on est bientôt une classe ouvrière ressemblant à Taïwan ou en Thaïlande, en train de coudre des ballons de football, là?
Parce que c'est quand même ça le fond du problème. Vous avez déjà vu une bagnole maintenant, avant quand on était embauché comme OS en chaîne, on demandait de serrer un boulon. Maintenant on me demande de serrer le boulon, de régler l'électronique et de vendre l'auto. Mais tout ça pour le même prix quand même, hein, faut pas déconner, hein, faut quand même que les gros ils vivent hein, quand même.
Dans Weekend à Sochaux, vous avez fait comment pour représenter votre travail? Parce que tous ces sketchs sont joués. Vous avez mis en scène tous ensemble. Vous avez décidé comment? Parce que vous jouez, par exemple, le coup de la roue, là. Hein, la productivité qui augmente et la main-d'œuvre qui va diminuer, hein, ce qui est expliqué dans le schéma. Ça, c'est une représentation qu'on voit. Comment vous avez fait pour décider collectivement de garder telle ou telle chose, de représenter telle ou telle chose de votre travail?
Le coup de la roue, c'est-à-dire le coup du BM, le technicien du BM qui était en stage chez Ford, là, qui revient nous l'expliquer. Mais c'est une chose vraie, le gars n'est pas un acteur, il est technicien à l'usine. Son boulot, c'était dans les bureaux des méthodes. Alors, il a forcé un peu le trait, il a noirci un peu le trait. Mais ceci étant dit, son boulot, c'est ça. Il a osé dire, en fait, en face, ce que les autres font tranquillement. Vous, alors, comment que c'est décidé collectivement? C'est décidé, un jour il est venu nous raconter son histoire, et nous on le savait déjà, nous on subissait donc ces inventions-là. Et donc, dans la mesure où il voulait le faire, il l'a fait, point, bon, ça s'arrêtait là, je veux dire, ça se posait pas le problème, comment? Ça plaisait bien, c'était ce qu'on vivait, donc ça allait, c'était aussi simple que ça. Si vous reprenez, bon, ça c'est le mec des BM. Vous relisez par exemple les mémoires de l'enclave de Jean-Paul Gou, dans le dernier chapitre où il parle de quelqu'un qui est dans un bureau des méthodes, donc à l'usine de mécanique, et qui son boulot consiste à se promener le long des chaînes et à repérer ceux qui sont un peu la tête levée ou un peu assis, uniquement pour repasser le jour d'après, le jour d'après, le jour d'après, pour tout ça pour réduire son temps le mois d'après. C'est que ça, je veux dire. Il a fait que de... Mais il a bien synthétisé, je trouve que son image est très belle, et ça passe bien. Mais ça, c'est une histoire vraie, c'est lui qui l'a proposé. Il est arrivé un jour, il nous a dit, voilà, j'ai envie de faire ça. Et donc, ça ne posait pas vraiment, puisqu'on était tous d'accord avec ce qu'il avait vécu et ce qu'il faisait, quoi.
Parce qu'en fait, cette usine, on n'y pénètre jamais avec la caméra. Ce qu'on représente, ce que vous représentez toujours dans le film, c'est les conditions de logement, beaucoup plus de choses sur le quotidien, y compris les femmes... celles qui travaillent dans la grande surface, enfin ou le magasin populaire appartenant à Peugeot. Donc c'est ce qui se passe à l'extérieur de l'usine, mais complètement dépendant de l'usine. Alors, vous en discutiez collectivement, c'est-à-dire comment vous avez par exemple décidé tous ensemble de représenter les conditions de logement?
Le problème, oui, bien sûr qu'on a discuté collectivement, mais le problème, il se posait pas comme ça, puisqu'il y avait problème de logement posé. On était 1500 jeunes travailleurs arrivant dans une région où il n'y avait pas de logement. Donc, on était logés dans les foyers à Altem de Betoncourt, pour moi. On était 450, hein, je crois, Sylvie, tu dois t'en rappeler aussi, 450 dans des chambres à deux lits. Voilà, on gagnait 900 balles et on redonnait 680 francs de pension. À partir de là, avec quelqu'un qui se levait le matin... à contre-tournée, donc il était incapable de mettre des gens travailler de la même tournée, donc un qui travaillait le matin et l'autre de l'après-midi, si bien qu'on se réveillait mutuellement. Donc c'était pas possible de continuer à vivre comme ça. Alors, bien sûr, c'est retombé que sur la vie quotidienne. On comprenait plus ce décalage qu'il pouvait y avoir dans notre cocon, entre guillemets, familial de nos provinces lointaines, et on arrivait là pour trouver mais vraiment un univers hostile, je veux dire, une usine hostile, des vieux ouvriers qui au départ à 18 ans nous paraissent pas forcément amicaux, hein, c'est pas le mot qu'on pourrait dire, et puis tout le système commercial, magasin, etc., tout ce phénomène de récupération de fric de la part de Peugeot, puisqu'on était quand même la pompe à fric, mais à un moment donné, que les gens qui habitaient depuis longtemps dans le pays de Montbéliard ne s'apercevaient même plus, je veux dire, ils vivaient avec. Nous, par contre, c'était choquant parce qu'on venait de l'extérieur. On n'avait pas appris avec une usine Peugeot, mais il y avait Michelin, Clermont-Ferrand, par exemple. Il y en avait d'autres, hein, c'était pas l'unique. Mais c'est vrai que ce genre de truc, c'était ces usines-là qui avaient besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre-là, après 68, c'est vrai qu'on n'était pas prêt non plus à l'assumer comme elle était, dans l'état qu'elle était. Faut dire aussi, c'était pas simple, syndicalement non plus, puisque c'est l'intérêt de personne de voir, des jeunes dans ces conditions-là, mais en même temps, il faut bien que quelqu'un fasse le boulot sur chaîne, je veux dire. Donc, ça forme un tout. Ça fait comme les intérims à l'heure actuelle. Les intérims à l'heure actuelle, on dit on n'est pas d'accord avec l'intérim, mais quand Folz y gueule un peu en disant « Oui, mais si la vente de voitures diminue, qui sait qu'il faudra virer le personnel permanent ou les intérims ?» Donc, tout le monde ferme un peu sa gueule. Eh bien, c'était un peu pareil à l'époque.
Le ton du film est drôle. Il y a un trait qui grossit, qui caricature même... et la condition de travail, et les contremaîtres, etc., etc., et les logeurs. Et il y a un moment dramatique fort, il y a un temps dramatique fort, c'est la répression à Sochaux, avec les CRS, parce qu'il y a eu des morts à Sochaux, en 68.
Deux morts, 152 blessés, donc, mais c'est une situation très particulière à Sochaux. Il faudrait raconter les événements de 68, du début jusqu'à la fin. 68 à Sochaux, ça commence comme dans toutes les usines, l'usine est occupée. Il y a un vote qui est fait, organisé par la direction, de reprendre le travail. C'est le 10 juin 68. Le 10 juin 68, peu de gens participent au vote, mais il y a comme une majorité pour reprendre le boulot. Mais Peugeot se méfie de ces majorités qui n'en sont pas. Il y a peu de votants, donc, qui se méfient. Toujours est-il que les piquets de grève s'en vont, et les gars du matin, donc les gars en bus, reviennent de la Haute-Saône profonde, du Haut-Doubs profond, etc., après avoir fini les foins ou et descendent pour aller travailler. Ceux-là, ils n'étaient pas pour la continuation de la grève, ils allaient travailler. Les CRS qui étaient dans l'usine ont vu des bus avec plein d'ouvriers dedans. On avait dû les remonter depuis des mois et des mois. Les ouvriers, c'est quelqu'un de dangereux. Ils ont des boulons, ils ont tout, ils ont des faux, des machins. Toujours est-il que plutôt que de taper sur les grévistes, ils se sont trompés. Ils ont tapé sur les gars qui allaient au boulot. Ce qui a expliqué, après toutes ces bavures, qu'il y a eu cette violence, non seulement Peugeot a toujours eu la patraque facile par rapport aux militants, mais en plus, là, ces cons de CRS ont tapé sur les non-grévistes, donc ceux qui allaient reprendre le boulot, ceux qui étaient pour la reprise. Il est évident qu'après cette première rafale, tous les gens des grands ensembles ont été prévenus et que tout le monde s'est à nouveau dirigé vers l'usine, et donc il y a eu à nouveau le 11 juin. Le 11 juin, et les CRS ayant commis cette bavure, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait qu'accélérer la répression féroce, et ils ont cogné de plus en plus fort, jusqu'au moment où Bouloche, donc, puisque c'est Bouloche, a fait arrêter le massacre, parce que c'était plus, ils ont tiré, Bouloche a bien senti le vent, il était temps qu'il s'en aille, parce que sinon c'était autre chose qui allait arriver, quoi. C'était plus de la même façon. Les CRS ont tiré, et il y a quand même des régions où il y a beaucoup de chasseurs aussi, je veux dire, c'est pas simple, quoi, donc. Et donc là, ils ont senti le vent. Mais c'est ça aussi, 68, hein, c'est tout cet aspect des... compliqué, hein, en même temps, hein, mais de révolte aussi. C'est pas facile, 68, parce que moi, quand je suis arrivé dans l'usine, avec qui je travaillais avec des gars qui avaient une trentaine d'années, c'était des gars qui avaient fait l'Algérie, qui avaient, je crois que ça a été bien raconté, qui avaient fait 28 mois à l'armée, des gars qui étaient... mais il y avait un ras-le-bol, faut se rappeler comment les gens étaient vêtus avant 68 et après, je veux dire, tout ce que ça a déclenché. Il faut bien se rappeler l'espèce d'uniforme ouvrier qui avait sombre, triste, tout le temps. On le voit bien, d'ailleurs, dans les films dans la Rodia, on voit bien les habillements des gens, etc. Et on voit bien aussi ce qui se passe après. Et nous, on arrivait donc, ça a été, c'est vrai, une révolte en tant que telle contre la société. Mais mal acceptée quand même par rapport aux gens installés, je veux dire, de l'usine, qui n'avaient pas forcément envie de voir 35 gugus, les emmerder dans des débats où ils n'étaient pas sûrs d'en sortir vainqueur. Hein, voilà.
Dans le film, on voit la représentation du travail, des conditions de travail jouées. Et puis à la fin du film, on voit cette jeune fille sur la route qui dit l'utopie d'une autre société, sans monnaie, avec la disparition de la monnaie et la disparition des frontières. Vous avez tous voulu terminer le film sur une utopie comme ça ?
Je sais plus, mais je crois que surtout on savait pas comment terminer le film. Il fallait que quelqu'un le termine. Bon, et je crois que c'est comme ça un peu que ça s'est passé. Hein. Je crois qu'Annette a fini par écrire son petit bout de texte et puis dire bon, mais elle nous a servi de sortie surtout, elle nous a enlevé une épine du pied, je crois, parce que on n'arrive pas à finir, quoi. Bon.
Alors c'était juste un truc de fin, happy end.
Bah non, parce que c'est une histoire qui se termine jamais. Bon, elle avait envie de dire ça, elle l'a dit, quoi. Je veux dire, en même temps, ça soulageait tout le monde qu'elle le dise. Bon, mais c'est tout. Mais ça se... Non, on peut pas dire une fin. En même temps, on voit bien qu'elle était, comment dire, lucide. La monnaie, il y a bientôt plus de francs. Les frontières, il y en a bientôt plus. Comme quoi, ben, tout se rejoint, même si il y en a une autre de monnaie qui s'installe, pire. Puis, ben non, mais quand... Il y a encore les clés, il y a plus, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas facile, parce que c'est vrai qu'on savait pas, si je me rappelle bien, je sais pas, tu pourrais dire aussi, mais si je me rappelle bien, on savait pas comment finir tout ça.
Je crois qu'on peut pas toujours justifier chaque instant dans chaque film, parce qu'il y a des moments euphoriques, il y a des moments difficiles.
Ça a duré longtemps, donc...
Parce qu'à entendre cette conclusion, moi je me dis, c'est complètement dans l'utopie de 68, où tout d'un coup on rêve d'une société où les patrons sont élus, les directeurs sont élus, touchent un salaire comme les autres, vont à la chaîne comme les autres, il n'y a plus d'hierarchie, disparition de l'argent et disparition des frontières, abolition des frontières. Donc je dis, on est quand même avec la conclusion du film, dans le rêve d'une société autre qui a émergé en 68, me semble-t-il.
Moi, je pense que à cette époque-là, l'ensemble des personnes qui, dans les entreprises, militaient, ont milité pour la justice, ont milité pour la paix, ont milité pour les besoins essentiels à la vie. On rêvait d'une autre société, on rêvait d'une société plus juste. Donc la conclusion de la jeune femme, c'est celle-là, c'est une autre société que celle qui, je veux dire, exploite les hommes et les femmes dans une région, je crois que c'était ça. Moi, c'est le rêve plutôt que l'utopie. C'est plus le rêve, ça m'est apparu plus le rêve que l'utopie, je pense.
Ça vous paraît possible ou irréel à revoir le film aujourd'hui ? Cette conclusion,
elle... Non, moi je trouve qu'elle est très poétique. Ouais, je pense que c'est ça. Moi, je pense que la parole reste à l'enfant, qui lui-même, un jour, peut-être, luttera pour, subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.
La poésie, on a parlé dans la salle de Paul Seb et de son écriture poétique. Qui était Paul Seb ? Il a été quelqu'un d'important dans cette affaire-là, dans le fait que le film existe.
Oui, mais moi j'ai connu Paul, disons, à la Rodiaceta. Je l'ai connu un matin à 4 heures, comme beaucoup d'autres. Il tenait la bibliothèque, il était au syndicat. Avant que je sois au syndicat, je l'ai connu à la bibliothèque. Et puis, comme je le disais, c'était un homme, disons, qui aimait la culture dans la plénitude du terme. C'est-à-dire que culture, c'est pas... je veux dire, il luttait contre cette privatisation de la culture que l'on connaît aujourd'hui. Qui est devenu de plus en plus privatisé. Je veux dire, c'est mondialisation, non, privatisation de la culture. À partir de là, lui, il luttait contre cela. Et il essayait, disons, à travers les hommes qui l'entouraient, de montrer qu'il y avait une autre culture que celle qui nous était matraquée, quoi. Et c'est à travers lui que beaucoup d'entre nous ont connu le théâtre, pour la première fois, la musique, la lecture, la peinture, etc., etc. Voilà, moi, je l'ai connu comme ça. Puis ensuite, je l'ai connu en tant que militant, hein, puisqu'il militait également. Donc là, c'était un autre personnage, mais qui tenait toujours... il avait toujours en priorité, je veux dire, la défense des intérêts des salariés, comme tout un chacun des militants, mais en même temps, je veux dire, pour la défense de la culture, mais la culture aux ouvriers. Donc, ce qui nous a amené à... C'est lui qui nous a amené un peu à finaliser, je veux dire, nos rêves. Parce qu'à l'époque, on rêvait. Moi, j'étais vachement... je sais pas, j'avais 25 ans, mais j'étais un gamin encore. Malgré qu'on bossait 8 heures par jour dans des conditions difficiles. Mais dans la tête, on était encore des enfants. Et il nous a aidés à premièrement, à notre propre expression. Parce que, comme il disait tout à l'heure, Corouche, c'est... Partout, c'était interdit de parler, interdit de fumer, interdit de s'asseoir, des interdits, tout partout, des interdits. La garde, le chien, il y avait des chiens de garde, etc. Donc, il nous a appris à nous exprimer. D'ailleurs, les films que l'on a vus ou qu'on va voir, c'est l'expression des salariés qui, jusqu'à maintenant, n'avaient jamais eu ce bonheur de s'exprimer à travers un film. Je rappelle que la guerre d'Algérie, on le voit d'ailleurs aujourd'hui, tous les témoignages sur la guerre d'Algérie sont apparus 20 ans ou 30 ans après. Hein, c'était interdit d'en parler. Donc là, on a un moment de vie, on a un moment de vie, et c'est des mecs d'une boîte qui tout d'un coup découvrent qu'ils peuvent parler. Voilà. Et c'est Chris Marker qui leur donne, je veux dire, le droit à l'expression. Et ce qui va faire que ces gens-là vont, après, je veux dire, pouvoir parler plus facilement aux autres, tels que moi, hein, ça m'a été. Mais au-delà, ça va nous emmener sur des chemins, je veux dire, où chacun va à sa propre découverte au fil des années, quoi. Voilà.
Si je comprends bien, donc c'est lui qui a eu l'idée du film et de contacter Bruno Muel ou pas ?
Ah, là, il y a eu la lettre. Il y a eu le CPPO. Voilà, c'est le CPPO, la lettre. Ouais.
Et il y avait René Berchoux qui n'hésitait pas à écrire systématiquement, particulièrement aux cinéastes et aux écrivains, pour les alerter de tout ce qui se passait sur Besançon. Et c'est à partir du CCPPO que tous ces gens sont arrivés et ont aidé avec leur matériel, et, y compris financièrement. Godard a envoyé du fric régulièrement.
Tout à fait. Bah, Chris Marker, il est arrivé à la suite, c'est une lettre qu'il a reçue de Berchoux, et il est arrivé sur Besançon pour faire le premier film que l'on a vu, qu'on a vu ce soir.
Donc c'est Chris Marker au démarrage.
Oui, c'est Berchoux au démarrage, et puis Chris Marker qui arrive, et puis qui rencontre tout le monde, quoi. C'est-à-dire que là, on réunit toutes les équipes de militants qui s'étaient rencontrés un petit peu avant dans le cadre du CCPPO, hein, parce qu'à la même époque, on vendait on faisait campagne pour Colette Magny, il y avait 1789 qui était venu, il y avait une multitude de choses, t'avais le théâtre, ce que je disais tout à l'heure. Ouais, voilà, super bien d'ailleurs, très impressionné.
Ils avaient réussi à faire des tractations avec la municipalité. Si ils remplissaient le théâtre pour des opérettes, ils avaient en échange la salle du théâtre pour faire venir des pièces de l'extérieur. Donc nous, les enfants, on allait remplir les salles aux opérettes. Et puis on se tenait bien sage parce qu'on savait qu'on allait obtenir la salle pour faire venir une pièce intéressante.
Et vous avez fini en 1789 ?
Oui.
Magnifique, on a rempli le palais des sports. Colette Magny, qui c'est qu'il y avait comme chanteuse aussi, Francesca Solville, Francesca, oui aussi, on a, ouais. Donc c'était tout ça, ça a commencé là, et comme tu le disais tout à l'heure, c'est tout d'un coup, il y a eu la mise en place d'une structure, hein, ce qui s'est appelé le groupe Medvedkin, ça s'est mis en place avec des statuts, je me rappelle, c'est pas moi qui les ai faits, je le dis tout de suite, puis on s'est trouvé embringué là, mais volontairement, j'entends, parce qu'on était déjà un peu dans la mouvance du CCPPO. Et puis, bon, Chris Marker et des... Non, d'abord, on a vu les photographes arriver. C'était les photographes avant les caméramens, comme je disais tout à l'heure. Et c'est là où on a fait des reportages. Et puis, petit à petit, ben, chacun s'est pris au jeu. Il y avait moi, il y avait Georges, il y avait Zedé, il y avait les deux Georges. Georges Binetruy, Georges Morivard, il y en avait bien d'autres, parce que j'ai oublié les noms, Jean-Pierre, etc. Et puis, tout d'un coup, c'est devenu une équipe assez soudée. Et bon, on a fait de multiples choses, et puis je ne sais pas qui c'est qui a pris la décision pour faire de la réalisation de film, mais on en a discuté, je me rappelle qu'on en a discuté, pour dire, ben voilà, est-ce qu'on ne peut pas donner la parole aux ouvriers, hein, et comment va-t-on le faire, qui va le faire, avec quels moyens, etc. On a tout défini les choses, hein, Berchoux était très, très pointu, le Pôle aussi était très pointu dans ce domaine-là. Donc on a trouvé les moyens, puisqu'on a eu des films, la pellicule qui nous arrivait, les caméramens sont descendus pour nous apprendre à tenir les caméras, etc. Et puis on a commencé, Godard, une table de montage, donc je suis parti à Paris pour apprendre à monter les films. Godard, on est monté à Paris voir son film qui s'appelait Mr. Freedom, à l'époque, il l'avait fait derrière la chinoise. Hein,
C'est Klein.
Oui. Ouais. Donc je me rappelle, on était monté à Paris, et puis voilà, chinoise, ça je me rappelle. Voilà, on était, je sais pas, ils recevaient dans une salle super classe. C'était impressionnant pour nous. Non mais faut le savoir, c'était très impressionnant. Hein. On avait 20 ans, hein. Très impressionnant. Et il y avait, je pense, des gens du monde entier qui étaient venus voir ce film-là. Très impressionné. Et puis on a eu plein de matériel, on a appris à tourner des films, à faire des... Et puis tout d'un coup, là, on a pris la décision de tourner Classe de lutte, etc. Quoi. Et ça a fait beaucoup. Parce qu'on se modifie, qu'on le veuille ou non. Avec le rapport avec les autres, des choses qu'on ne connaissait pas. Donc, automatiquement, on en prend quelque chose. Voilà. Et moi, c'est le côté positif que j'ai conservé, c'est que j'en ai pris des choses qui vont m'aider 20 ans après, qui vont m'aider.